C'est l'heure de Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.
Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end devant votre téléviseur, assis ou debout dans un stade, mais surtout à l'écoute de RFI, la radio du monde, et surtout la radio du football africain. Wydad Casablanca, Espérance de Tunis, c'est l'affiche de la finale de la Ligue des Champions africaine. Vous nous direz ce que vous en pensez, Patrick Juillard. Bonjour Patrick.
Bonjour Hugo et bonjour à tous.
En France, la course à la Ligue des Champions bat son plein. Lille tient à sa deuxième place, elle est même pratiquement dans la poche, comme on dit. Le LOSC s'est bien protégé des coups de griffe de Lyon hier. Mais où est Marseille? Loin, trop loin. Bonjour Marc Libra.
Bonjour Hugo, c'est pas gentil d'attaquer comme ça en frontal.
Et on parlera davantage de Lille, de Lyon, de Saint-Etienne.
Ah, et de Paris,
à la Ligue des Champions. On parlera un peu de Paris.
Ah, d'accord.
Et peut-être un tout petit peu de Marseille si on a le temps de descendre aussi bas. Et puis en Allemagne, le temps des adieux est venu pour une légende. Franck Ribéry ne portera plus les couleurs du Bayern Munich. C'est la fin d'une histoire d'amour, le mot n'est pas trop fort, qui aura duré 12 ans. Heureusement, il nous reste David Lortolari pour parler de la Bundesliga sur RFI. Bonjour David.
Bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
L'aventure continue également pour David Finzel et Laurent Salerno. Radio Foot, c'est parti. Les supporters de l'Espérance de Tunis ont encouragé leurs joueurs à prendre le meilleur sur le tout-puissant Mazembe. Ils ont été entendus. Leur équipe a fait le nécessaire en RDC ce week-end à Lubumbashi. Match nul 0-0 en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Les espérantistes s'étaient imposés 1-0 à l'issue de la première manche. Ils filent donc en finale pour défendre leur titre de champion d'Afrique. L'Espérance en route vers un doublé. L'Espérance qui sera opposée à son prédécesseur, le Wydad Casablanca, champion d'Afrique en 2017. Voilà pour les vainqueurs. Patrick Juillard, on va d'abord parler des vaincus, les corbeaux de Mazembe. David Mouakassou est leur entraîneur adjoint.
Je peux dire tout simplement, la chance nous a tourné les dos. C'est un match qu'on avait en main. Et là où on pouvait faire le break facilement, évidemment, il suffisait vraiment s'appliquer de la lucidité et surtout la concentration. Car on s'est créé beaucoup d'occasions devant le but, mais on n'a pas pu profiter au maximum. C'est le haut niveau. C'est ce qu'on peut appeler, finalement, avant la lettre, c'était quand même bien, il y a eu du bien. Sur le plan discipline, sur le plan mental, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de fierté entre les deux clubs sur le terrain. C'est que je peux féliciter aussi mon collègue et l'Espérance de Tunis. Et bonne chance pour qu'il puisse avoir les doublés.
David Mouakassou, extrêmement classe, extrêmement élégant dans ses déclarations d'après-match. Est-il pour autant lucide quand il parle d'un simple manque de chance pour ses corbeaux?
Pas entièrement, c'est-à-dire qu'effectivement si on regarde les feuilles statistiques, le nombre de tirs des deux équipes, bon, la domination des Congolais est écrasante, en possession c'est pareil, en domination plus globalement c'est une domination écrasante, les occasions ont plu sur le but tunisien, mais il n'y a pas uniquement de la malchance, il y a aussi quand même le talent et la baraka de Moez Ben Cherifia, qui est simplement gardien remplaçant de l'Espérance, mais qui a fait un match 5 étoiles, qui a tout sorti ce qu'il pouvait. Et puis, il a aussi manqué un petit peu, peut-être de variété dans le jeu, peut-être tenter autre chose. Il y a eu beaucoup d'actions un peu inabouties aussi, parce qu'il retient les occasions, mais il y a eu pas mal d'offensives avortées, parce que l'Espérance tenait bien la baraque, donc...
Qualification logique de l'Espérance, est-ce qu'on peut dire ça tout simplement?
Qualification logique, l'inverse aurait été difficile, puisque même 1-0 n'aurait pas suffi au TP Mazembe, il fallait deux buts d'écart. Donc je pense que oui, quand même qualification logique, vu le match aller, sur les deux manches, qualification logique, rien à dire. L'Espérance mérite de défendre son trophée.
C'est la meilleure équipe africaine.
Aujourd'hui, collectivement, ça fait aucun doute. Oui,
c'est la meilleure que le WAC, le Wydad, qui défend, qui défendra, qui sera son adversaire en finale?
Pour moi, oui, sans problème. Elle est meilleure. Après, sur une, c'est un peu l'originalité de la finale de la Ligue des Champions africaines. C'est une double confrontation, donc une situation peut toujours se retourner. C'est pas sur un seul match, mais oui, l'Espérance a fait preuve surtout d'une qualité de cohésion. Elle a plié sans rompre, quoi, et tenir aussi longtemps sans rompre, c'est le signe de quand même que ça se passe bien, quoi. On s'affole pas, on sait gérer les situations, on sait gérer le manque de possession. Donc c'est le signe d'une maturité collective quand même supérieure.
On va également parler de la Coupe de la Confédération, parce que là aussi on connaît l'affiche de la finale. Patrick, elle opposera la Renaissance de Berkane, le Marocain, au Zamalek. Berkane qui a réalisé une remontada aux dépens des Tunisiens du CS Sfaxien. On a peut-être pas le temps de tout énumérer, mais un match marqué par pas mal de polémiques. Berkane avait perdu 2-0 l'aller, a remporté 3-0 le retour, des polémiques après la rencontre, avant la rencontre,
surtout
avec un accueil n'ont pas apprécié les Tunisiens, racontez-nous.
Ouais, ce qui s'est passé, bon, il y a eu déjà, bon, l'accueil globalement n'a pas été jugé vraiment très classe de la part des Marocains, mais surtout dans la nuit de samedi à dimanche, donc juste avant le match, l'alarme de l'hôtel dans lequel étaient logés les Tunisiens s'est déclenchée à 6h du matin pendant 30 minutes, donc à réveiller tout le monde. Le temps de l'arrêter.
C'est pas à 5h même, Patrick, me semble-t-il. Il y a peut-être différentes versions.
Ouais, ça dépend du fuseau horaire, peut-être. Non, mais...
Alors nous, Antoine Grenier, hier dans Mondial Sport, je crois, est parti sur 5h.
Bref, c'était pendant que les joueurs dormaient, trop tôt pour que ce soit honnête. Et donc, ça a un petit peu pourri la dernière nuit des joueurs. Après, bon, la remontada, c'est surtout que les joueurs de Sfax, je sais pas si ça a joué dans leur déconcentration, mais ils ont commencé leur match qu'à la mi-temps, quoi. Donc il y avait déjà 3-0, ils se sont fait vraiment marcher dessus, et au final Berkane n'a pas volé sa qualification. Cette équipe, ça devient un peu les oranges mécaniques, hein, puisque c'est la cité des oranges au Maroc. Donc voilà, ça nous rappelle Dundee à l'époque en UEFA, ça fait bien longtemps.
Coach Jolaba, le Togolais, Issoufou Dayo, le Burkinabé buteur pour Berkane hier. Berkane qui n'en est pas à sa première polémique dans cette Coupe de la Confédération.
Non.
Ça pourrait faire l'objet d'un autre débat.
Et
le
club
cher à Fouzi Legja, personnage très très influent du football.
Et président de la fédération marocaine, effectivement, bras droit un petit peu d'Amad sur les questions financières. Bref, quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps. J'espère que ça, c'est juste une expression, que c'est pas au-delà du raisonnable. Après, c'est une finale contre le Zamalek qui est un véritable coffre-fort. 4 dernières rencontres à l'extérieur, 4 fois 0 but encaissé. Donc, je pense qu'ils ont intérêt à bien étudier la manière dont les Égyptiens défendent pour essayer de les déjouer, mais ça sera pas facile.
Voilà pour le show, Patrick Juillard, en introduction de cette émission. Marc et David ont pu s'échauffer. On va muscler Radio Foot désormais.
Avec Memphis face à José Fonte. Memphis qui va être accompagné par Martin Terrier. La frappe de Martin Terrier et le but lyonnais en contre-attaque. Et Loïc Rémy qui a une offrande et qui va égaliser. Quel loupé de la défense de Lyonnais.
C'est Lille qui réalise la bonne opération en conservant ses 6 points d'avance sur Lyon à 3 journées de la fin.
Ils sont dans le dur là, les Monégasques. Cabella pour le centre. Sur la tête d'Arnaud. C'est pas le plus grand du groupe. C'est pas le plus grand sur la pelouse, Arnaud Dardin. Mais c'est le timing.
Très belle opération de Saint-Etienne qui met la pression sur Lyon et solidifie à minima une place en Ligue Europa.
Le film d'un beau dimanche de Ligue 1. À 3 journées de la fin, Lille, Lyon et Saint-Etienne se disputent 2 tickets pour la Ligue des Champions. Le premier a déjà été validé, évidemment, par le champion, le PSG. Le LOSC est pratiquement assuré de la retrouver, cette Ligue des Champions. Une finale pour la deuxième place, l'opposé à l'OL hier. Sur le terrain de son concurrent, il est allé chercher le nul de partout après avoir été mené 1-0. Après avoir mené également 2-1, Lille maintient Lyon à 6 points. La différence de but est très très favorable aux nordistes. De son côté, Lyon est menacé par Saint-Etienne, quatrième, qui pointe à une longueur après son succès 3-2 à Monaco. Lyon a même été dépassé durant quelques minutes par les Verts hier soir. C'était en deuxième période quand il courait après le score. Voilà pour les faits. Il fallait faire les comptes, surtout après le choc du dimanche hier soir. Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille, et Anthony Lopez, le gardien de l'OL, s'en sont chargés.
Ce point, il est important, il maintient à distance le troisième, il maintient aussi à distance le quatrième qui est là, c'est le quatrième, il est là, hein, il pousse fort. On a notre goal average qui est quand même un avantage important. Il me semble qu'avec une victoire, on pourra célébrer notre deuxième place. On a trois matchs pour gagner et ça serait bien de l'emporter dès la semaine prochaine.
On avait d'autres ambitions à travers cette rencontre, de gagner ce match, de prendre les trois points pour mettre la pression sur lui jusqu'au bout. Voilà. On est parti chercher le point du match nul sur la fin de match. Donc voilà, on reste troisième. On a encore notre destin entre nos mains pour assurer cette troisième place. Mais voilà, ça va jouer jusqu'au bout. Et ce match-là résume totalement notre saison.
Marc Libra, un match nul, mais clairement deux réactions opposées. Du côté lillois, on a plutôt tendance à parler d'un contrat rempli. Il fallait pas se louper avec cette finale face à Lyon. Et ils sont parvenus à accrocher le point du match nul. C'est bien. C'est même
un
très
super
bien.
Résultat. Il fallait déjà pas perdre. Dans la même conférence, Galtier dit, si on m'annonce avant le match qu'on va faire 2-2, que je vais prendre un point, je signe de suite. Ce qui est dommage, c'est que j'ai senti des Lyonnais jouer petit bras. Parce qu'ils en parlent tellement de cette finale. Alors, vous savez, quand on va rencontrer Lille, parce que rappelez-vous, déjà en décembre, mais il y aura un retour. On a fait 2-2. Mais vous verrez bien. Nous, le sprint final, ça nous correspond. On sait faire. Et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, malheureusement, ils ne savent pas faire. Et hier soir, ils sont tombés sur une très bonne équipe de Lille. Qui peut-être, pour moi déjà, sans ces deux meilleurs récupérateurs qui ont été des récupérateurs géniaux toute la saison, Sheka et Mendes qui étaient absents, c'est dommage que Lyon n'ait pas été capable d'aller les chercher beaucoup plus que ça. Alors certes, c'est vrai qu'ils poussent un peu en fin de match, mais c'était trop stérile et j'ai l'impression que cette équipe du LOSC, elle a géré du début jusqu'à la fin comme sa saison. Ils ont mérité leur deuxième place pour l'instant, alors c'est pas fini, mais en tout cas, bravo à Galtier et à tous ces hommes.
Donc si je vous suis, Marc, match nul hier. Mais en fait, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Il y en a une qui est meilleure que l'autre. C'est Lille. Vous êtes d'accord, David?
Oui, souvenez-vous, il y a 10 ans, enfin une dizaine d'années, maintenant plus même, la solidité lyonnaise, ces 7 titres d'affilée, on ne se posait pas de questions, on se heurtait à un mur systématiquement, on n'en est plus là du tout aujourd'hui. Et dans le scénario qu'est-ce qui s'est marqué, il y a aussi ce derby qui va venir pour Lyon et la peur peut-être. Je ne sais pas si le mot est dans le contexte le bon, mais une forme de crainte peut-être de. Sinon de tout perdre, du moins de se faire, entre guillemets, humilier par le voisin stéphanois. Et à Lyon, l'édifice qui était si solide il y a une décennie est un peu fissuré aujourd'hui. On n'a pas les mêmes certitudes. Et les certitudes sont plutôt du côté Lille. Et il y avait eu 2-2, me semble-t-il, à l'aller,
oui,
dans ce match arrêt, c'est ça? Et cette fois-ci, effectivement, l'analyse est plutôt favorable à Lille parce que la solidité, la cohérence, plutôt côté lillois, c'est à l'image de la saison lyonnaise aussi, Hugo.
C'est ce que dit Anthony Lopez.
Lyon peut faire de belles choses, de très belles choses. Il y a eu aussi parfois, et puis même dans un match, finir par afficher de flagrantes faiblesses. Ils s'en tirent pas si mal que ça finalement Lyon hier, mais bon, avec 6 points d'écart, c'est terminé.
C'est quand même un constat d'échec. Patrick Juillard, Lyon hier nous a montré qu'il ne méritait pas beaucoup plus que cette troisième place et qu'il allait falloir aller la chercher, cette troisième place. Elle ne lui est pas due.
On a l'impression que cette équipe n'a jamais progressé durant toute la saison. Elle s'est reposée sur ses individualités qui sont très talentueuses et qui parfois peuvent gagner des matchs, hein, quand elles sont plusieurs à être en même temps dans un bon jour. Lyon est assez irrésistible, mais on sent pas derrière tout ça une force collective. On sent pas un travail. Quand on regarde Lille jouer, on voit des combinaisons, on voit que c'est les rouages sont vraiment travaillés, huilés, vraiment affinés. Lyon, c'est un peu au bon vouloir des stars de l'équipe. On le voit, un joueur comme Léo Dubois hier, il fait d'abord une grosse bévue qui
permet
un but,
à Lille de passer,
voilà,
de passer
qui
devant.
Permet à Lille de prendre l'avantage. Et ensuite, il se dit bon, je vaux mieux que ça quand même. Il monte, il fait un peu ce qu'on appelle du dépassement de fonction et il marque un joli but parce qu'il a aussi
c'est
du talent.
Droit, oui.
Mais il n'y a pas vraiment. Les joueurs, ils vont de, si on doit les noter, ils vont constamment de 2 à 9 quand ils sont lyonnais, alors que les Lillois, ils sont toujours entre 6 et 7. Et donc, au final, c'est beaucoup plus efficace d'être toujours bon ou très bon que d'être tantôt très mauvais, tantôt très bon comme Lyon. Donc, il y a un problème un petit peu de cet effectif plafonne. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'avec Genesio, tant que c'était des jeunes issus du centre qui composaient en majorité les nouvelles pousses de l'effectif, ça fonctionnait bien. Mais maintenant qu'il y a plus de recrues et qu'il doit vraiment les faire rentrer dans un moule lyonnais, il a plus de mal.
Bon, le problème Genesio, si problème,
c'est un vrai problème.
Il est réglé, il sera
oui,
pas là
oui, oui.
La saison prochaine. Marc Lebrun.
Non, mais je suis surpris que Patrick mette l'accent sur Genesio, parce que sur des grandes rencontres cette saison, on a toujours dit que c'était les joueurs qui étaient très bons, je pense en Ligue des Champions, où ils ont été capables de sortir des gros matchs. En plus, tu l'expliques très bien, tu expliques qu'il y a certains joueurs, c'est quand ils ont envie, c'est au bon vouloir des joueurs.
Oui, mais ça, c'est un problème d'entraîneur.
Bien vu. Non, c'est pas un problème. Non, c'est
en
ça que t'as pas compris.
Même.
Mais non, pas du tout. Si t'as pas envie de jouer, moi, pour des entraîneurs, j'avais pas envie de faire l'effort et je faisais pas l'effort. Alors, je jouais pas tout le temps, mais quand je jouais, j'avais pas envie de faire l'effort. Parce que ça me gonflait, parce que l'entraîneur ne respectait rien. Donc, tu l'as bien vu, t'as des joueurs. Et on va, de toute façon, aujourd'hui, en 2019, on suivra les carrières de ces très, très grands joueurs, parce que la plupart, nous, c'est des Ronaldo, des Zidane. Mais en fait, la plupart des joueurs sont des tout petits joueurs qui ont un ego surdimensionné.
Vous visez qui en particulier?
Il y en a
des
plein.
Noms.
Non, mais il y a Ndombele, il y a Aouar, il y a Traoré, il y a Fekir. Tous les mecs qui se prennent pour ce qu'ils sont pas. Juste, on va rappeler qu'il y a un an, Lille était dans une situation avec presque le même effectif, avec des joueurs qui jouaient leur tête, leur survie.
Il y a eu quand même des renforts au mercato, Marc.
Non, mais je suis d'accord. Oui. Mais les joueurs, ils ont été quand même meurtris avec l'entraîneur Galtier qui est arrivé. Et là, aujourd'hui, l'équipe lyonnaise, il est quand même fantastique. Et les joueurs ont fait ce qu'ils ont. Donc moi, je veux bien l'entendre. Mais Genesio a sa part de responsabilité. Mais il faut pas tout lui mettre sur le dos, parce que tout le monde pense
ah ben c'est facile de lui mettre tout sur le dos,
c'est
mais il fait partie de l'explication, Marc.
Mais non, il fait partie de l'explication.
Bah si.
C'est pas forcément que l'explication. Quand t'as des joueurs qui sont capables, comme Memphis qui te sort il y a un mois et demi, moi je joue dans les grands clubs, mais déjà
mais
dans
ça,
les grands clubs t'y es passé, t'as pas eu le niveau, mon garçon. Donc
mais
déjà
ça,
t'as de la chance d'être
d'accord, mais
et ça a rien à voir avec Genesio, c'est juste que le joueur ne veut rien faire.
Voilà les Lyonnais rhabillés pour l'hiver, sachant qu'en plus ils sentent le souffle stéphanois dans leur nuque. Saint-Etienne qui a battu Monaco à Monaco hier 3-2, alors que les Verts étaient menés 1-0. Ils se sont réveillés surtout en seconde période en inscrivant 3 buts. Vous aimez bien Saint-Etienne, David Lortolari. Je vous donne la parole. Avant, on écoute Rémi Cabella, l'un des hommes en forme, l'un des Verts en forme.
On fait notre bonhomme de chemin. Moi, je dis, on se prend pas la tête match par match. On a nos objectifs. Il faut qu'on les tienne. On est sur une très très bonne série en ce moment. On a deux matchs à domicile maintenant, donc... Et à Montpellier vendredi, ça va être un très gros match, et surtout à domicile avec nos supporters qui nous ont manqué.
L'un des verts du moment, Rémi Cabella, David Lortolari, va-t-il aider Saint-Etienne à réaliser la prouesse de chipper cette troisième place à Lyon? Ils l'ont fait pendant quelques minutes hier, je le rappelais.
Il a soufflé une mauvaise note dans sa trompette, là, Cabella, parce que chaque fois que je me suis déplacé, moi, lorsque je travaillais pour l'ASS à Monaco, il y avait toujours des centaines de supporters stéphanois à Louis II. Donc, s'il considère que les supporters stéphanois nettent son équipe qu'à Saint-Etienne, c'est un peu de mauvaise foi. Mais c'est une petite parenthèse amicale. Saint-Etienne, il faut pas les voir non plus trop beaux. C'est pas une équipe qui a été ultra dominatrice sur ce match-là contre Monaco. Il y a eu de la chance aussi. J'ai souvenir d'une occasion de je crois que c'est Glick qui tape sur un montant. Il y a Naldo aussi qui a une occasion qu'il met au-dessus de mémoire. Enfin, bon, malgré tout, quand même, pour être positif sur cette ASS, oui, il y a des acteurs importants, Hugo, bien sûr. Moi, je mettrais pas Cabella en premier, même s'il a été brillant hier.
Non, on pense à un Tunisien.
Oui, mais surtout à l'entraîneur, moi, parce que Jean-Louis Gasset a été parfois dans l'ombre dans sa carrière. C'est dans l'ombre aussi hier. Nous a-t-on raconté que dans le vestiaire il avait été décisif pour remobiliser ses joueurs. Mes deux camarades sur le plateau s'écharpaient à l'instant sur l'importance d'un entraîneur. Là, il semblerait qu'à Saint-Etienne, Gasset soit quand même un acteur majeur de la bonne partition globale de l'ASS. Alors oui. Cabella, sans doute, peut faire de belles choses. Oui, Wahbi Khazri aussi, on le sait, et ça peut être un élément décisif en s'appuyant sur la force de Saint-Etienne aujourd'hui. On parlait du collectif de Lille. Il y a une vraie force collective aussi à Saint-Etienne. C'est pour ça qu'ils sont là. Je pense que en plus, la culture stéphanoise, la culture du Forêt, la culture de la Loire va faire que le petit condiment que constituerait une place au-dessus de l'Olympique Lyonnais va aussi Gassé, aussi les aider.
Déjà non, c'est Gassé.
Ouais, ça va aussi être un ressort, un élément, un argument pour réussir la fin de saison.
Et le Tunisien Kasri, parce que j'ai pas donné son nom tout à l'heure. Marc Libra, Patrick Juillard, vous voyez Saint-Etienne coiffer Lyon au poteau.
Je pense qu'ils en sont capables en fait.
Il y a deux matchs parce à la maison. D'ailleurs,
il y a surtout voilà deux matchs à la maison, mais il y a surtout ils ont dû digérer Salnaes qui est parti, ça fait un petit peu bizarre en janvier, et ils ont peut-être eu un petit retard à l'allumage à partir de son départ, parce que la plupart du temps il faisait la pluie le beau temps au milieu de terrain, c'était un joueur important, et puis depuis quelques temps ils sont remis dans le sens de la marche. Leur coach est toujours très important, ça a été l'homme de l'ombre de Laurent Blanc à une époque au PSG, mais il a toujours été entraîneur dans l'âme quoi qu'il arrive, c'est plus qu'un adjoint quoi qu'il arrive, et là on a vu qu'il s'est mené son équipe au plus haut. Après, est-ce que cette équipe n'est pas forcément en sur-régime ? En tout cas, bravo à cette équipe-là, elle est sur une belle série. On sait que les séries, quand elles se pointent à ce niveau-là et qu'il reste trois journées,
c'est bon signe.
On va aller au bout.
Ouais. Non, moi je pense aussi que ça dépend de l'OM, puisque Marseille reçoit Lyon dans la prochaine journée. Et c'est peut-être la dernière, battre Lyon serait une des dernières possibilités de sauver un tout petit peu la saison marseillaise qui est catastrophique. Ça motive quand même les joueurs, parce que ça fait quand même longtemps que l'OM n'a pas battu Lyon à domicile hein, en Ligue 1. Donc tout ça fait que Lyon peut être sous pression au Vélodrome. Alors je sais que c'est un match qui va aussi servir à beaucoup d'ultras de l'OM pour contester la direction et l'entraîneur, donc ils sont peut-être pas focus à fond sur le match, mais je pense que si Marseille mène,
si Aulas fait deux déclarations dans la semaine,
voilà,
je crois que c'est pas mal.
Ça peut les remettre un peu dedans, et en plus si pendant le match Marseille mène au score, là ça peut devenir assez irrespirable pour l'OL. Bon, ils en ont vu d'autres, mais je pense que ça aussi, c'est David parlait de condiments, ça s'en éteint, je pense aussi, pour
c'est vrai.
Par procuration pour Saint-Etienne.
Et Saint-Etienne, la semaine prochaine, reçoit Montpellier, cinquième à 7 points, donc ce serait une manière de tuer tout suspense pour la course à l'Europe, en incluant la Ligue Europa, en ne parlant pas que de la Ligue des Champions. Vous parliez de l'OM, Patrick Juillard, alors bon, bah, on va battre le fer, battre le Marseillais tant qu'il est chaud, Marc Libra. Match nul face à Strasbourg, vendredi, pour l'OM. Que faut-il en dire? Que faut-il en penser? Simplement, au classement, l'OM, sixième, 55 points, donc à 7 points également. Du premier européen, Saint-Etienne, la Ligue des Champions, elle est à 8 points.
C'est fini, oui.
Ouais, voilà. Vous avez.
Ça semble. Oui,
vous
non, ça
vous
semble.
Projetez sur la saison prochaine, voire sur le match de Lyon pour sauver l'honneur?
Je pense que les supporters espèrent de sauver l'honneur face à une équipe lyonnaise. Après, ça gâchera pas la saison qui a été catastrophique dans tous les sens du terme, quoi. Rudy Garcia, qui a, sur 43 matchs, a fait 40 compos différentes. C'est-à-dire que, on a vu des joueurs comme Lopez qui réapparaît, qui redisparaît. On a vu des Luis Gustavo qui démarre la saison en 6, et puis d'un coup, tu retournes en stopper. Finalement, on le perd parce qu'il en peut plus, il est à bout de nerfs. On a vu un Rami qui nous fait un burn-out, qui redémarre, qui revient, qui nous fait, quand on le voit que Strasbourgeois rentre dans la surface, on voit qu'il est court, il peut que le cisailler, quoi. Il lui fait, un beau ciseau, enfin bon voilà quoi. C'est du gâchis pur et dur, et je suis très inquiet pour l'OM pour la saison prochaine. Je sais pas comment ça va se passer. Et je pense que vraiment il faut déjà pas qu'il y ait l'Europe. Vraiment, il faut pas que l'OM joue l'Europe, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Ça va être très très compliqué, vraiment.
Eh bien, quelle fin de saison, quel printemps. Il est un peu à l'image de la météo parisienne, hein, votre printemps marseillais, c'est gris, extrêmement gris. On peut, pour équilibrer un petit peu les débats, on a dit du mal de l'OM, on peut dire du mal aussi du PSG, match nul face à Nice samedi, le champion de France qui finit sa saison un peu n'importe comment, on va pas se mentir. La crise au PSG, on l'a détaillé, David.
Oui.
Est-ce que ce match face à Nice, il l'alimente encore un petit peu plus, ou bien il est totalement anecdotique?
Pour moi, c'est quand même assez anecdotique. On a sur notre antenne, et nous aussi autour du plateau, une culture qui dépasse le football, et on sait que dans le sport de haut niveau, quand il y a plus d'enjeux dans les têtes des joueurs, c'est un peu le bazar, c'est un peu la roue libre, quoi. Je veux pas. On peut taper sur le Paris Saint-Germain sur des choses précises, peut-être des erreurs de coaching à un moment de la saison dans des matchs qui comptaient, peut-être aussi des blessures comme celle de Neymar, des choses comme ça. Là, alors que le titre est acquis depuis plusieurs journées, reprocher au Paris Saint-Germain un match nul contre Nice, ça me paraît hors sujet. Reprocher un manque de professionnalisme, je veux bien, à la limite, mais on va pas demander à des Formule 1 de. Enfin, pour moi, c'est C'est normal. Enfin, prenez un seul exemple, très vite, Hugo. Eunice Barber, l'athlète magnifique qui faisait l'heptathlon en athlétisme pour les couleurs de la France. Un jour, elle se lance dans un concours où elle veut réussir un record. Je sais plus si c'était le record du monde ou faire quelque chose de très brillant. Elle est mauvaise sur son premier lancer du poids, il me semble. Elle décide d'abandonner l'affaire parce que elle estime que c'est tout ou rien. Soit on réussit jusqu'au bout et on est brillant jusqu'au bout, soit eh bien, on laisse couler parce qu'on est hors sujet, quoi.
Malgré tout, je suis assez d'accord, mais ce qui m'étonne
quand même,
un petit
nice
peu.
Nice a fait mal. Échec, le grand PSG.
Nice aurait même pu gagner si Saint-Maximin avait pas voulu briller et faire un geste YouTube au lieu juste de marquer le but.
Patrick Juillard, bon, vous aimez bien Nice.
Lui, voilà un joueur qui se croit avoir beaucoup de talent et qui a juste un énorme ego.
Patrick Juillard, vous aimez bien Nice. Est-ce que ça vous a fait plaisir? Est-ce que ça vous a touché, ce match nul?
Ah, bah, bien sûr. Et Youssef Attal m'a régalé. Enfin, il a renvoyé Bernat sur le banc de touche, là, le temps d'une séquence. La défense a été fantastique. RL, Dante ont été fantastiques. Le penalty qui a été sifflé à la fin n'était pas valable puisque Neymar a contrôlé de la main. Heureusement, le karma l'a puni en la personne de Benitez. Oui, ça m'a beaucoup plu. C'est prometteur. Je pense que Nice a au moins des raisons d'espérer et continue de jouer. Même si Nice ne joue rien, c'est à contrario de ce que dit David. Nice se donne des petits objectifs. Et moi, ce qui m'étonne, pour finir très vite sur le PSG, c'est que le PSG n'est pas des joueurs de banc pour faire souffler les stars et pour quand même faire respecter un club qui est combien, septuple champion sur les 9 dernières années. C'est incroyable, c'est toujours les mêmes qui jouent et ils jouent mal. Donc
la Ligue 1, le mot de la fin, Marc Libra.
Non, mais pour revenir sur le PSG, c'est révélateur d'un état d'esprit, d'une mentalité. On peut être un grand champion, après un moment donné, il faut rien lâcher. Et là, malheureusement, je l'avais dit, je crois que dans la semaine, on s'était vu, on avait dit, mais leur saison s'est arrêtée. C'est-à-dire qu'on perd United, la saison, elle est finie. Et si on n'est pas capable de se relever, d'aller au charbon, c'est-à-dire qu'il faut leur mettre la pression, eh ben qui démarre la saison. Allez, en octobre ou novembre, ils perdent tous les matchs et au moins on verra. Parce que là, est-ce que c'est juste
j'étais
pour
provocateur
certains...
volontairement, hein, Marc.
Bien sûr, je comprends. Mais est-ce que c'est normal pour certaines équipes qui aujourd'hui se font? Alors Nice, c'est bien pour Nice, mais Strasbourg qui gagne, Nantes qui gagne.
C'est limite faussé le championnat, quoi. Ah oui.
Et pour moi, sûr, je suis désolé. Oui. Tu rencontres le PSG en octobre, novembre, décembre, janvier, c'est une équipe. Tu les rencontres maintenant. Oh, les mecs, ils ont plus envie. Ils mettent des équipes. Pas bis, terre, ils mettent des équipes aussi.
Bah, je suis désolé. Marc, parce
dans
que...
l'esprit, tiens, c'est pas top, quoi.
Oui,
c'est
mais
pas
Marc,
top.
Justement,
pour tout le monde, c'est pas
tu...
top.
Tu dis équipe bis terre, mais là, j'ai trouvé que c'est surtout les cadres. Là, ils avaient mis une équipe A ou A prime. C'est les cadres qui ont failli, quoi.
Démobilisés.
Le PSG devrait s'inspirer du Bayern Munich qui a eu la correction cette année de ne pas être champion dès la fin du mois de février ou au début du mois de mars.
Wenn du bist schon 12 Jahre beim Bayern, war eine tolle Zeit für mich auch für meine Familie.
J'ai passé 12 ans au Bayern, c'était une super période pour moi et ma famille. Je suis encore là pour 3 semaines, je ne peux pas trop penser à ce qui se passera ensuite. Je veux encore profiter d'être là, sur le terrain, avec mes coéquipiers. Je n'ai pas encore de plan concret pour la prochaine saison. Je vais continuer à jouer, mais rien n'est encore sûr à 100%. Les mots de Franck Ribéry, qui achève sa belle histoire, celle qu'il a unie au Bayern Munich. C'est la fin d'une époque glorieuse, hein, plus généralement pour le géant bavarois. Arjen Robben avait déjà annoncé son départ en fin de saison. Cette fois, c'est l'autre dynamiteur, celui du côté gauche, qui laissera sa place, la place aux jeunes, à la relève. Le palmarès simplement de Ribéry sous la tunique rouge du Bayern. 8 titres de champion, 5 coupes d'Allemagne, une Ligue des champions, bien sûr, une super coupe de l'UEFA, une coupe du monde des clubs. Ce n'est pas exhaustif. David Lortolari, petite question. Tout en mesure, est-ce que c'est le meilleur joueur de l'histoire du Bayern qui quitte ce club?
On peut assez facilement le classer dans une hiérarchie un petit peu chiffrée. Il n'y a que très très peu de joueurs qui ont remporté 8 titres. Il y a Schweinsteiger, il y a Oliver Kahn, il y a Mehmet Scholl et Philippe Lahm. Ils sont 4. Franck Ribéry peut dépasser cela parce qu'il est le 5e à avoir 8 et peut-être un 9e titre dans 2 semaines. Ça, c'est déjà un fait. Bon, mais après, ça dépend aussi du contexte, de l'adversité, etc. Il est considéré unanimement Hugo. J'en ai fait l'expérience avec des interviews diverses récentes de gens qui comptent en Allemagne et en particulier en Bavière. Il est unanimement respecté et considéré comme ce que ces gens-là appellent une légende, une légende. Donc oui, il fait partie des tout meilleurs. Après, si vous titillez les Allemands sur Franz Beckenbauer, Gerd Müller et 2 ou 3 autres, ce sera difficile pour eux de considérer que Franck est au-dessus de cela.
Peut-être Rummenigge aussi.
Mais il est à part et il a apporté 12 ans un grain de folie, il faut bien le dire, qui a beaucoup plu aux Allemands et qui a réveillé peut-être leur fibre romantique, puisque, contrairement à ce qu'on dit toujours, l'Allemagne et la Bavière, ça n'est pas que la rigueur, il y a aussi du romantisme, de la poésie, et un grain de n'importe quoi qui a beaucoup plu et qui était en adéquation avec ce qui était
attendu. Est-il au moins le meilleur étranger de l'histoire du Bayern, incontestablement, devant Arjen Robben?
Oui, oui, et il y en a un autre qu'il faut mentionner, qui joue encore, c'est Pizarro, qui a marqué ce week-end avec le Werder, le péruvien. Non, non, mais attention, ah oui, parce qu'il en est à 196 buts, hein, quand même, Claudio Pizarro.
On n'est pas loin de 40 ans, hein.
Il les a passés même.
Ah bah oui.
Mais oui, oui, Hugo, c'est vrai. Oui, Franck Ribéry, le meilleur étranger. Et pourtant, il y en a eu des illustres, comme Giovanni Elbert. Mais Ribéry, longévité plus les trophées, vous en citiez quelques-uns, il en a remporté une vingtaine. Et encore, en plus, il n'y a pas de Coupe de la Ligue, par exemple, en Allemagne. Donc, ça aurait pu être encore plus prolifique pour lui. Oui, c'est forcément, allez, disons-le, même si ça fait un peu slogan, le meilleur étranger de l'histoire du club.
Karl-Heinz Rummenigge, le patron du Bayern, vous en parliez. Il a associé Arjen Robben et Franck Ribéry dans un hommage. Ce sont de grands joueurs. Le Bayern leur doit beaucoup à tous les deux.
C'est vrai.
Ils auront droit à un grand et émouvant adieu. Ils ont contribué à façonner la décennie la plus réussie du Bayern avec un football fantastique. Marc Libra, on rappelle qu'avant le Bayern, c'était l'OM, le grand révélateur pour Franck Ribéry. Ah, donc ça vous touche, sa réussite
Ribéry aurait dû rester à Marseille, alors c'est ça que vous êtes en train de me dire?
Pas du tout, non, non. À mon avis, pour lui, c'était mieux d'aller à Munich.
Ça représente une époque avec un football avec des ailiers, des vrais joueurs de côté qui apportaient énormément. C'était un football que moi j'ai découvert en 90 quand j'ai commencé à jouer. On avait, avec la JOC, on avait un attaquant et des joueurs de côté. Et là, on avait retrouvé ça avec le Bayern de Munich, mais des joueurs vraiment très impressionnants. C'est un petit peu Lizarazu qui avait ouvert la voie en étant un Français en allant au Bayern. Et c'est vrai, quand Ribéry part et qu'il va au Bayern, on se dit, mais c'est complètement fou. C'est-à-dire que Ribéry, pour le connaître un tout petit peu, c'est quelqu'un d'attachant, c'est quelqu'un d'extraordinairement gentil. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Ils vont le casser en deux parce que ils vont pas aimer ses blagues, ils vont rien aimer. En fait, ça a duré 12 ans, l'histoire. Et franchement, chapeau à lui parce qu'il a été extraordinaire. La différence, c'est que pour Franck Ribéry, il a jamais triché, il triche jamais avec personne. S'il vous aime, il vous aime. S'il vous aime pas, il vous aime pas. C'est dommage, c'est qu'en France, on l'a aimé pendant un temps, et puis du jour au lendemain, c'est devenu un paria. C'est un petit peu dommage. Oui. Parce que l'amour qu'il a donné aux Français en 2006, tout ce qui s'est passé, il a fait parce qu'il sentait que tout l'amour qu'il avait, et on se rappelle, ces petits soucis quand il vient à la télé pour expliquer que ça va mal, on s'est servi de ça pour un petit peu le détruire, et c'est dommage parce qu'il avait tellement d'amour à donner à l'équipe de France et à la France, et ben on a préféré en donner aux Allemands, et je suis ravi que le Bayern ait pu en profiter pendant 12 ans, bravo à lui en tout cas.
Mais Ribéry, symbole de l'équipe de France finaliste de la Coupe du Monde en 2006, c'est
symbole. Mais surtout ce qu'il a fait pendant cette Coupe du Monde, ce qu'il a apporté au football à l'époque.
Surtout ce qui est terrible, c'est qu'avec toutes ces histoires qui ont un peu pollué son image en France, on oublie que c'est avant tout un très grand professionnel. Mais pareil, au même titre que des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic ou Eric Cantona, dont encore aujourd'hui ou à l'époque, on ne parlait que des déclarations, des photos, des petites choses extra-sportives, mais avant tout, c'est des géants du professionnalisme, et Ribéry, c'est pareil. On est passé de Kaiser Franz avec Beckenbauer à Kaiser Frank avec Ribéry au Bayern.
Mais alors, tout n'a pas été parfait, néanmoins. Bon, 36 ans, il joue encore, donc ça, effectivement, ça va mettre au crédit, et ça peut
donner l'idée qu'il est très...
Il a marqué son cinquième but de la saison ce week-end. L'an passé, il avait également été très performant, mais... après le triplé de 2013, il y a eu ce ballon d'or qu'il n'a pas eu.
Ça y a fait du mal. Hein.
Beaucoup de blessures. On dit que le moral avait été atteint. David Lortolari. L'éviction récente aussi de Carlo Ancelotti. On a dit que Ribéry avait un petit peu fait partie d'une fronde, encore une, de joueurs contre l'entraîneur. Tout n'a pas été parfait pendant ces 12 années au Bayern Munich. Et il y a également l'affaire Zaya avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2010, avec le club qui est obligé de le soutenir. Tout n'a pas été non plus parfait. Il n'a pas toujours été parfait, Franck Ribéry.
C'est vrai, il a été plus que pris par l'épaule, parce qu'il le considère en fait comme un fils. Et ça m'a été aussi confirmé par un entourage très proche. Le président Uli Hoeneß a protégé Franck Ribéry, l'a défendu, l'a installé dans un cocon extrêmement confortable et favorable à ses performances. Le prisme médiatique en Allemagne est beaucoup moins brûlant sur le plan de ses affaires que vous évoquiez à l'instant, Hugo, que en France. Oui, la presse de boulevard, comme on dit en Allemagne, c'est l'expression consacrée a tapé sur Franck Ribéry à l'occasion du de son affaire du steak doré qu'il avait trop mis en scène sur les réseaux, l'affaire effectivement Zaya, d'autres choses comme ça. Mais une fois que c'est passé, on est revenu très vite en Allemagne, alors qu'en France non, on est revenu très vite sur ses performances sur le terrain. Et Patrick a raison de souligner cette longévité, parce que ses performances sur le terrain font autorité, en fait, l'ont installé comme une légende. C'est la légende, c'est sur le terrain. Alors, on lui a pardonné aussi les coups de coude qu'il a mis à l'occasion contre des défenseurs qui lui frictionnaient un peu trop les chevilles.
C'est normal. Également pris physiquement.
C'est le jeu, ça. C'est le jeu.
Dans une carrière,
journaliste,
il y en a toujours.
Un confrère,
un
journaliste. Patrick Guillaume, c'était cette saison.
Ancien joueur, Patrick, oui, tout à fait. Il a aussi eu des altercations sur le terrain, par exemple, à l'occasion d'un match contre Dortmund assez tendu avec Kevin Grosskreutz. Franck Ribéry n'est pas forcément un saint, et quand on vient l'agresser, il répond. Normal. C'est aussi ça.
Il est un peu sanguin, mais ça fait partie du charme aussi de Ribéry.
Tout cela a été non pas mis sous le tapis, mais tout cela a été considéré comme secondaire par rapport à ce qu'il avait apporté au Bayern et au football et à la pétillance
oui,
du
et puis on a apprécié qu'il a par exemple qu'il apprenne l'allemand,
bien sûr.
Qu'il dise son plaisir de vivre en Allemagne.
Il a clamé son attachement,
il a acheté une super baraque, il est bien là-bas,
voilà, il s'est vraiment intégré mais profondément à la Bavière et à Munich.
Et c'est on pas lui a juste ses imperfections.
Un jet-setter.
Marc Libran en parlait tout à l'heure et vous acquiesciez la cassure après ce ballon d'or qu'il n'a pas reçu. Ça a été assez surprenant parce qu'on a senti vraiment une blessure.
Enfin, pour moi, il méritait. Moi, j'étais en plateau. Je pense vraiment qu'il méritait de l'avoir. Il était sur 5 titres. Ils avaient en fait avec le champion. Ils avaient tout. Il y avait eu 5 titres, je crois, sur la
championnat, même. Coupe nationale,
mondial des clubs, mondial des super
y avait, donc,
et la Ligue des Champions.
Et il méritait, mais vraiment de l'être. Et je pense que ça, il a fait. Je pense, je peux pas dire qu'il a perdu un an, mais il a eu très, très, très beaucoup de mal à revenir. Et dernière chose, vous savez, dans ces grandes institutions qui sont le Bayern de Munich, on reste pas 12 ans par hasard. C'est-à-dire que si ça va pas au bout d'un an ou deux ans, allez, tu prends la porte, mon garçon, parce que des entraîneurs, il en est passé, des grands entraîneurs, certains sont revenus à la maison et ils ont conservé le Ribéry. Et ce qui apporte aujourd'hui Ribéry dans un état d'esprit de mentalité, c'est toujours très important. Et peut-être l'avenir nous le dira, mais peut-être qu'il peut revenir au club ou on ne sait pas.
Oui, parce qu'il va pas déjà.
C'est un scénario.
Dans un premier temps, il ne va pas arrêter de jouer au football. On parle d'une destination
David,
entre guillemets exotique.
En Chine, peut-être.
Mais effectivement, revenir au Bercail, c'est une habitude pour les grands joueurs du Bayern.
Oui, c'est un scénario probable qui n'a pas été confirmé parce que simplement, et Franck, dans le son qu'on a passé tout à l'heure, je pense, est tout à fait honnête avec ça. Il n'a pas décidé encore de ce qu'il faisait cette saison qui vient, à quelle destination.
Peut-être en Arabie Saoudite.
Il souhaiterait même jouer 2 ans. C'est aussi pour ça qu'au Bayern, on a décidé qu'on mettait fin à la collaboration, parce que le Bayern aurait peut-être envisagé une saison encore, mais pas deux. Et ensuite, scénario probable en effet, c'est que Franck, quelque part modestement, s'occupe de l'une des équipes de jeunes du club, les moins de 9, les moins de 11, les moins de 13, que sais-je exactement. Mais c'est sûr qu'un accord est tout à fait possible entre ses dirigeants et lui-même. Anecdote très rapidement, Hugo, lorsque Franck a des velléités de départ, je crois que c'est vers le FC Barcelone au bout de 2 ou 3 saisons au Bayern, je crois que c'est Karl-Heinz Rummenigge qui fait le voyage à Barcelone, alors que Franck est à Barcelone pour commencer à discuter, qui fait le voyage à Barcelone pour le convaincre de revenir à Munich. Donc il y a vraiment eu, dès le départ, une vraie histoire. On ne savait pas qu'il allait rester 12 ans, mais il y avait une vraie histoire solide qui était en train de se constituer entre les deux parties.
En championnat d'Allemagne, le Bayern possède 4 points d'avance désormais sur le Borussia Dortmund. 32e journée ce week-end, le Bayern s'est imposé 3-1 face à Hanovre avec, on en parlait tout à l'heure, le 6e but de la saison, le 5e en Bundesliga pour Franck Ribéry. Il reste donc 2 journées. Dortmund, de son côté ce week-end, a concédé le nul à Brême de partout après avoir mené 2-0, comme ouais. Un résumé de cette fin de saison pour Dortmund où tout s'écroule après avoir longtemps été irrésistible. C'est plié cette Bundesliga.
Non, parce que
et d'ailleurs ça peut être plié des week-ends prochains.
Ça c'est vrai. Les confrères allemands rappellent avec malice ce matin dans la presse que il y a eu pas mal de scénarios et notamment le plus terrible 2000-2001 où le titre se joue au-delà de la dernière minute dans les arrêts de jeu. Schalke croit être champion et finalement c'est le Bayern qui s'impose.
Ils regardent le Bayern être sacré
oui.
Sur la pelouse.
Oui.
On s'en souvient. Géant, une
oui,
image
oui.
Incroyable.
Une tragédie à l'image du football, enfin à l'image du théâtre que peut être le football. Donc non, ça n'est pas plié, et ça n'est pas plié surtout parce que le FC Bayern doit rencontrer 2 adversaires très coriaces, Leipzig la semaine prochaine qui est 3e et l'Eintracht Francfort qui jouera peut-être une place en Ligue des Champions à la dernière journée. Donc il faut que le Bayern prenne encore des points. Néanmoins, il n'a pas forcément besoin de gagner, 2 nuls peuvent suffire, et Dortmund, aujourd'hui, dans le discours, on dit qu'on y croit encore parce que ça fait partie de l'ADN de Dortmund, mais je vous garantis que dans les têtes, il y a une partie de l'esprit des joueurs et de l'entraîneur qui considèrent déjà que le Bayern est champion.
Et le Bayern qui disputera également une finale de Coupe d'Allemagne contre Leipzig fin mai. Ça pourrait faire donc deux nouveaux titres pour Franck Ribéry. Lucien Favre prolongé à la tête de Dortmund, l'ancien entraîneur de Nice.
C'est très
ça
bien.
Ça vous plaît? Bonne
c'est
idée.
Mérité. Je trouve que c'est bien qu'un club aille au-delà du résultat brut. C'est-à-dire que effectivement, il y a une déception de fin de saison.
Il y a
une déception de fin de saison, mais je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour construire. Et on n'est pas au bout de ce qu'il peut apporter au club.
Voilà. Pas
alors on va me dire, il a jamais rien gagné, c'est vrai, mais il faut bien commencer à un moment ou à un autre.
Non, je vais pas te dire ça. Je vais te dire qu'à un moment de la saison, on pensait vraiment avec le retard qu'il avait, je crois 9 points d'avance.
Oui,
c'est
9 points. Début janvier.
Je pense que malheureusement t'as pas le droit quoi. Quand t'es Dortmund, t'as cet effectif-là, tu produis ce genre de football, t'as un Bayern qui est pas forcément au mieux, c'est un petit peu dommage. Donc je crois encore en lui, mais après il faudra pas s'éterniser avec ce genre de coach parce que le conserver, le refaire, enfin je sais pas, c'est faudra voir. Affaire à suivre.
Lucien Favre, qui avait tout de même été nommé entraîneur de l'année en Bundesliga à plusieurs reprises, c'était quand il coachait Mönchengladbach. Et justement, la fin de saison, ce sera un retour à la maison, si je puis dire, pour Lucien Favre. Dernier
pas forcément
match à
évident
Mönchengladbach
non plus, ouais.
Pour Dortmund et qui sait, pourquoi pas un match décisif.
Mohamed Salah a bougé au passage et il est resté au sol l'Égyptien.
Salah still on the ground.
Inquiétude. Aïe.
Double actualité en Angleterre. La première, elle concerne Liverpool. Je laisse de côté la Premier League. Nous en parlerons demain dans Radio Foot. Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds, nous a donné des nouvelles de Mohamed Salah. Tout à l'heure, l'Égyptien sorti sur civière samedi après un choc violent, impressionnant avec le gardien de Newcastle. Passage Liverpool s'est imposé 3-2. Résultat, Mohamed Salah, il n'aidera pas son équipe demain face au Barça en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Jürgen Klopp.
So both are not available for tomorrow.
Mohamed Salah et Roberto Firmino sont forfaits pour demain. Pour Salah, c'est une commotion cérébrale, ce qui veut dire qu'il n'a même pas le droit de jouer. Alors c'est tout. Il se sent bien, mais ce n'est pas suffisant d'un point de vue médical. Il est désespéré, mais on ne peut pas le faire jouer.
Liverpool devra donc réaliser l'impossible. Liverpool battu 3-0 à l'aller, donc il reçoit le Barça demain. Réaliser l'impossible sans son meilleur buteur. 26 réalisations, toutes compétitions confondues pour Mohamed Salah. C'est
Origi
le coup dur de trop.
Origi est là, il a montré, non?
Ah, il a marqué contre Newcastle.
Ah ben, Newcastle. Alors, le ratio temps de jeu et ce qu'il a fait, c'est quand même énorme.
Après, quand même, Marc Libra.
Non, mais c'est différent.
Sans Salah, là, c'est le coup dur. C'est terrible.
C'est très difficile et il faut faire avec, malheureusement. Après, c'est une frustration géante parce qu'il doit se sentir très très bien, mais cette commotion, malheureusement, l'empêche de jouer. Donc, c'est dommage.
Patrick Juillard, malchance quand même de Mohamed Salah quand les grandes échéances arrivent en Ligue des Champions. On se souvient à sa sortie prématurée.
Oui, et puis
surtout,
c'est toujours des blessures qui sont pas des blessures type claquage ou quoi. C'est des chocs à chaque fois. Donc c'est un joueur qui est pas ménagé, et qui lui-même il va au contact. C'est un joueur qui a pas peur. Bon, et ça a des risques évidemment. Après, il y a pas que Salah. Il manque aussi Firmino et Naby Keita. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup pour une seule équipe, tout ça.
On en reste là. L'avant-match sera à suivre demain dans Radio Foot. Rendez-vous 15h10, temps universel. Et puis, on reviendra sur le match, sur cette demi-finale retour en direct à 21h10. On a évoqué les malheurs de Liverpool, qui au moins dispute la Ligue des Champions. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'était évidemment une petite pique à l'encontre du grand rival Manchester United. On écoute son entraîneur, Ole Gunnar Solskjær.
Nous sommes déçus. Nous ne disputerons pas la Ligue des Champions l'an prochain. Sur l'ensemble de la saison, nous n'avons pas été assez bons pour nous qualifier. Le classement ne manque jamais à la fin. Pourtant, nous avons eu de nombreuses occasions pour accrocher la quatrième, voire même la troisième place. Mais voilà, on va finir en Ligue Europa, la place qui correspond à notre niveau.
Voilà, moi je suis comme Manchester United, je pédale un peu dans la semoule quand arrive la fin de l'émission. Manchester United donc et son entraîneur Ole Gunnar Solskjær qui ne feront pas partie du gratin européen, on l'a entendu, la saison prochaine. Le match nul à Huddersfield, un partout hier, prive les Red Devils de C1. Le Norvégien Ole Gunnar Solskjær avait relancé ses Diables Rouges cet hiver, mais ça n'a pas suffi. Les dégâts de José Mourinho étaient peut-être trop important. Plus sérieusement, le chantier, c'est ça qui est saisissant. Il est immense. Il est toujours aussi important à Manchester United, saison après saison. On a l'impression que ce club n'arrive pas à digérer l'après sur Alex Ferguson, parti, on le rappelle, en 2013. C'était pas hier, David Lortolari.
Oui, et en plus reconstruire chaque année, alors certes avec des valises d'argent, ça fonctionne pas. Il faut quand on a vu le temps que Chelsea a mis pour remporter la Ligue des Champions, quand on a vu le temps qu'il a fallu à Manchester United, à City, le rival, pour trouver aussi une vraie carburation. C'est vrai que on est nostalgique. Enfin, je sais pas pour mes camarades, mais je suis nostalgique moi de la poigne d'Alex Ferguson, parce que c'est vrai qu'on a vécu une période tellement longue de réussite de Manchester United. Alors il y avait après aussi des acteurs pour cela. Paul Scholes parmi une multitude d'entre eux, par exemple, pour n'en citer qu'un. Mais aujourd'hui, Solskjaer, oui. Alors il y a eu un effet immédiat et tout à fait logique d'adhésion de cet entraîneur lorsqu'il est arrivé, et après le soufflet retombe un peu. Le problème, Hugo, c'est que devant, même si United n'a pas été irréprochable, mais devant c'est très solide, c'est très fort. Tottenham, Chelsea, United, Liverpool, pour devancer ces quatre-là, c'est quand même pas de la tarte.
Oui, enfin, quand même, c'est... United a eu le temps de se reconstruire et les moyens, vous
oui,
le disiez,
les moyens,
Marc Ibra.
Oui, mais l'argent ne fait pas tout. Ils se sont trompés sur pas mal de joueurs quand même. Ils ont acheté énormément, dépensé énormément, mais malheureusement ils se sont trompés. Donc l'argent ne fait pas tout. Encore une fois avec l'Ajax qui est pour moi l'exemple parfait. Maintenant, est-ce que au vu de la saison, ce qui s'est passé, le nouveau coach qui arrive de finir Ligue Europa, c'est peut-être, comme le dit le coach, c'est leur niveau, parce qu'ils peuvent pas aujourd'hui par rapport à Tottenham, par rapport à Chelsea, par rapport aux autres écuries. Ben ils sont en retard, ils sont en retrait. Ils ont fait tellement de piètres prestations jusqu'au départ de Mourinho qu'on peut pas à un moment donné dire « Ah ben finalement on aurait mérité ça » parce que nous si on est inquiet sur certaines équipes qui vont découvrir avec des champions l'année prochaine, Lille ou peut-être Saint-Etienne, pour United ça peut être très même s'il y a beaucoup d'argent, ça peut être très compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui on se dit finalement entre City, United, je vais où? Et puis Tottenham, je vais où? Les gens, je pense qu'ils choisiront les meilleurs du Big Four, et Manchester aujourd'hui United ne fait plus forcément rêver, je pense.
Patrick Juillard, Ole Gunnar Solskjaer est-il l'homme de la reconstruction cette reconstruction est encore longue?
Je pense qu'il peut revenir à ce qui a fait la force de United, c'est-à-dire un mélange de jeunes formés au club, la fameuse classe 92 avec Beckham, avec Nicky Butt, avec Paul Scholes, avec les frères Neville qui ont été quand même la base de l'équipe de Ferguson, de toutes les conquêtes de Ferguson, et les recrues, mais des recrues qui collent un peu avec l'esprit combattant et combatif de cette équipe, pas juste des joueurs superposés comme là le recrutement d'Alexis Sanchez qui est un très bon joueur mais qui ne colle pas du tout à l'équipe, qui a coûté cher et qui n'apporte rien
et qui joue même pas, il est
malheureux. Donc il y a eu plusieurs erreurs comme ça, donc il
et
faut
Pogba post formé au club qui est censé avoir l'ADN United.
Pogba c'est pas encore un échec, mais j'oublie encore dans les jeunes formés au club il y avait Ryan Giggs aussi qui est un joueur extraordinaire. Il faut qu'ils reviennent à ça. Il y a un bassin de population, Manchester City n'est pas un club formateur, ils doivent prendre cela, tout en doublant ça avec les moyens qui sont les leurs d'un bon recrutement. Et Solskjaer, je pense qu'il peut être l'homme qui va refaire cette unité-là. Maintenant, moi, j'y crois toujours.
Avec ou sans Pogba? A priori, ce sera sans Pogba. Tant mieux pour Manchester City. United, pardon.
Je sais pas, il était venu pour gagner des titres et pour faire la différence. Il a gagné une Ligue Europa, il me semble. Oui. Mais depuis, il n'y a pas grand-chose et on attend autre chose de Pogba. C'est dommage parce qu'il commençait à prendre un petit peu le relais, mais on attend vraiment autre chose du très très grand Pogba.
David Lortolari sur Pogba.
Oui. Alors, enfin, après,
ça vous inspire pas.
Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est que à ce niveau-là, il faut endosser le joueur, être le joueur d'exception qui endosse la possibilité de réussir une campagne européenne au-delà de la Ligue Europa dont parlait Marc, et qui, je répète, cette espèce de quintet, puisqu'on peut ajouter Arsenal qui est devant United en ce moment, un seul joueur aussi exceptionnel soit-il comme Paul Pogba pour endosser cette responsabilité-là, ça me paraît vraiment trop, et en plus, il n'est pas encore suffisamment constant et stable pour cela.
Merci David Lortolari, merci Marc Libra,
merci beaucoup, merci
Patrick
Juillard
d'avoir participé à Radio Foot aujourd'hui. Merci à Laurent Salerno qui a habité à Huddersfield, et il y a des gens qui habitent à Huddersfield et qui étaient à la réalisation. Merci également à David Fitzel. Radio Foot revient demain. En attendant, très très bonne soirée à l'écoute de RFI.
C'était Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.
RFI.